Bonjour à toutes et bonjour à tous, on est super heureux de vous retrouver dans Voix Enchantée. C'est le troisième épisode de la saison 2 et pour l'occasion, nous recevons Tristan. Voix Enchantée.
Barry Jenkins qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba, je voudrais dire sans rien y ajouter, je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Salut Tristan, bienvenue dans l'émission.
Salut.
Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, nous dire par exemple ce que tu fais en ce moment comme études ?
Oui, alors moi j'ai fait des études littéraires en classe prépa, puis un master de lettres à la Sorbonne Nouvelle. Et actuellement je suis en master d'édition en fait. Et je suis actuellement en alternance à l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art.
Bah, c'est super. Comme chaque mois, l'émission s'ouvre par le choix d'un artiste qui te touche particulièrement ou qui te plaît. Est-ce que tu peux nous dévoiler son identité ?
Alors j'ai choisi de parler de Jean-Jacques Rousseau. C'est un auteur que je considère comme vraiment important en fait parmi toutes mes lectures et pour lequel j'ai une vraie passion, je dirais, dans le sens où j'aime beaucoup ses œuvres. C'est un auteur qui est en plus très connu, notamment pour ses écrits philosophiques, mais je trouve un peu moins connu pour ses écrits plutôt littéraires, comme La Nouvelle Héloïse ou Les Confessions, par exemple. Et c'est un auteur vraiment auquel je retourne très souvent. C'est un auteur qui a beaucoup de qualités à mes yeux, ne serait-ce que par l'atmosphère qui se dégage de ses récits. C'est des livres que j'aime beaucoup lire parce que je me sens toujours bien en ressortant de ses lectures, transmettre des messages et des choses qui sont vraiment bonnes en elles-mêmes.
C'est marrant que tu dis ça, parce que Rousseau, il me semble, de mes souvenirs de cours de philo, qu'il disait que l'homme était naturellement bon, et que c'était la société qui le pervertissait, ou quelque chose comme ça.
Oui, exactement.
Donc toi, tu ressens sa philosophie, parce que là, du coup, c'est Rousseau philosophe, à travers ses lectures.
En tout cas, je trouve que c'est vraiment des lectures qui sont presque vertueuses, dans le sens où j'ai l'impression que ça transmet quelque chose de bon, ne serait-ce que par la lecture en elle-même. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des lectures qui peuvent nous transporter sans problème, et qui sont très agréables également, mais qui nous laissent par exemple avec un sentiment de rancœur ou avec des sentiments qui sont un peu...
Nous tirent pas vers le haut, quoi.
Oui, exactement. Et Rousseau, en fait, j'ai l'impression que c'est une lecture que je pourrais faire à n'importe quel moment de ma vie et que ça, même si j'étais triste ou si je me sentais pas bien, ça me permettrait de me sentir bien. C'est un auteur qui, je trouve, est très riche. Il a vraiment une connaissance des sentiments humains et de leur profondeur qui est assez impressionnante. J'ai réussi à m'identifier à ce qu'il disait à chaque fois, alors que dans ses récits, notamment dans les confessions, c'est complètement extravagant, loufoque. Il y a même des moments où c'est gênant, en fait.
Quand tu es lecteur, tu aimes l'identification. Il y a plein de gens qui te diront « l'identification, c'est un peu dépassé. Oui, on regarde pas un film que pour s'identifier au personnage, ou on lit pas un livre que pour s'identifier au personnage. » Après, moi, j'ai rien contre l'identification et je trouve ça super, au contraire, de pouvoir ressentir ce que les personnages ressentent. Mais voilà, donc toi, t'es un lecteur qui s'identifie.
Alors, en fait, pas forcément. Vraiment, je lis plein de livres où c'est pas du tout le cas et que je trouve remarquable et que j'apprécie beaucoup. Mais au-delà de l'identification, c'est le fait que ce qu'il nous dit arrive à atteindre vraiment ma sensibilité et ma conscience. Au-delà de l'identification, c'est plus le fait d'être impliqué, en fait, dans le récit, je pense, qui est important.
C'est maintenant le moment du coup de cœur musical de notre invité. Tristan, est-ce que tu peux nous dire le nom de ce morceau et le nom de cet artiste ?
Alors j'ai choisi November de Max Richter.
Thank you. Tristan, pourquoi ce choix musical qui n'a pas de parole et qui est presque existentiel ? Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le ressens comme ça.
D'accord, alors c'est une musique que j'ai totalement entendue par hasard. Je crois que c'était au Centre Pompidou et je l'avais chasamé une ou deux fois. Et en fait, j'étais vraiment frappé par cette musique, j'ai trouvé très jolie. Et j'ai découvert plus tard que c'était Max Richter en fait, qui l'avait composé, que je connaissais à travers différentes musiques de films. Je pense surtout à On the Nature of Daylight, qui est une musique que j'aime beaucoup, qui était notamment dans Shutter Island. Et cette musique, c'est une musique que j'ai découverte récemment, qui je pense n'est pas forcément très connue, et que je trouve très belle, donc j'avais envie de la partager.
Ouais, c'est super, et à la fois elle n'est pas très connue, et à la fois j'ai l'impression que c'est comme si on l'avait déjà tous entendu un petit peu, parce que... Elle fait vachement BO de film, enfin bande originale de film, comme tu dis, les compositeurs de musique de film, mais aussi bande originale de vie. C'est pour ça que je te disais existentielle, parce que même le clip, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui veulent le découvrir, il y a quand même ce côté où c'est, on suit un petit garçon, je crois, depuis qu'il est petit jusqu'à la mort. Enfin, il y a quelque chose comme ça du cycle de la vie. Il y a aussi les planètes, l'espace, l'orage, enfin, il y a les animaux, il y a la nature. C'est comme si... Cette chanson, elle voulait comprendre en elle-même toute l'humanité et presque tout l'univers. Je sais pas ce que t'en penses.
Alors, malheureusement, moi, j'ai pas vu le clip, mais je m'empresserai d'aller le visionner après. Mais en tout cas, moi, c'est une musique qui, je trouve, effectivement, des musiques qui arrivent à nous transporter, à nous émouvoir, nous donnent souvent cette sensation de contenir en miniature un peu l'expérience d'une vie. Mais je pense que moi, ce qui m'a touché, c'était surtout les premières minutes. Je trouve qu'il y a quelque chose de véritablement original et qui touche, qui arrive vraiment à me toucher.
Il y a un paysage sonore, on entend des battements de cœur.
Oui, la pluie, le vent, toutes les sonorités qui nous rappellent le mois de novembre. Mais oui, il y a quelque chose d'envoûtant, vraiment. Je trouve que c'est le mot, moi je l'ai entendu plusieurs fois et c'est pour ça que je les avais chasamés à cette époque-là. C'est que j'étais vraiment envoûté et je pense que ce qui m'a touché, c'est souvent le cas avec les musiques qui transmettent une sorte de mélancolie, de tristesse. C'est que, comme c'est très bien réussi, on a une musique qui est censée nous transmettre de la tristesse, mais qui, par sa beauté, magnifie un peu ce sentiment, ce qui fait que ce qui devrait être désagréable, nous apporte une satisfaction. Et c'est un peu le paradoxe de toutes les musiques qui sont censées être tristes ou un peu mélancoliques.
C'est le moment du partage du texte que tu as écrit. Est-ce que, avant de le lire, tu veux nous le contextualiser un peu ? C'est-à-dire, est-ce qu'il était écrit il y a longtemps ? Est-ce que tu l'as écrit pour l'émission ?
C'est un texte que j'ai écrit vraiment pour l'émission, hier ou avant-hier soir. Je dirais que je me suis un peu inspiré de ma lecture du moment, qui était Baudelaire. Et j'avais voulu faire quelque chose dans l'aspect provocation et même dans le ton un peu sombre de l'écrit.
Et on t'écoute, merci.
Dis-moi, qui suis-je ? Toujours on me reconnaît, pourtant je ne distingue pas clairement ma personne. As-tu vu mon âme ? Qui j'étais hier me semble bien étranger, et qui je suis s'efface déjà. Peut-être qu'il en naîtra un autre, il m'est encore plus inconnu. Mes plus sûres convictions dépérissent, elles m'échappent et se fanent, alors je construis avec un aplomb bien naïf mes futures certitudes. Bientôt toutes tremblotantes. Dois-je vraiment me présenter ? Le veux-tu ? Je suis tour à tour délicat et grossier, brillant et médiocre, juste et inique. J'incarne la douceur et je transpire la brutalité. Je suis tout autant sympathique que cruel, modeste qu'arrogant. On dit d'ailleurs souvent de moi que je suis d'une chaleur glaciale. J'aime l'ordre et j'aborde le chaos, j'adore l'anarchie et je hais la paix. L'existence est pour moi un pur délice et un accablant fardeau. Et de même que je commence à peine à vivre, de même je suis déjà presque mort. Enfin, ne me reconnais-tu pas dans ce portrait pourtant si fidèle ? Y vois-tu d'ailleurs une quelconque contradiction ? Car je suis la lumière et l'obscurité, l'ombre et la clarté, tour à tour voleur et justicier, mensonge et vérité, il semble que je puisse être à la fois tout et son contraire. Suis-je Jésus ou bien Satan ? Tu vois, finalement je crois savoir qui je suis. Et toi, ne te reconnais-tu pas là ? Toi, dis-moi, cher homme, qui tu es ? Pourrons-nous espérer un jour entrevoir le fond de tes secrets ? Ne sais-tu pas bien mieux que moi que l'identité est un pâle mensonge ?
Merci beaucoup, Tristan, pour ce partage qui est quand même assez personnel, même si tu le présentes comme je ne veux pas que ce soit trop intime, mais il y a quand même des questions qui ressortent. C'est le moment maintenant de parler de l'œuvre que tu as choisie. Ben, on t'écoute. De quoi tu vas nous parler ?
Alors, j'ai choisi un film. C'est Mulholland Drive de David Lynch.
Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce film ?
Alors, c'est très difficile à pitcher parce que l'intrigue part dans tous les sens.
Difficile à comprendre, j'ai l'impression.
Exactement, c'est toute la complexité du film. Une actrice arrive à Hollywood, elle veut démarrer sa carrière. Et il y a plein de choses mystérieuses qui vont arriver, notamment autour d'une autre figure féminine qui a perdu la mémoire et qui se retrouve chez elle et qui essaye de retrouver son identité.
Ok, on écoute un petit extrait.
I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place.
This one comes highly recommended.
Dream place? What are you doing?
Get out of the car.
Yeah. The girl is still missing.
What's wrong?
I just don't know who I am.
I wonder where you were going.
Mulholland Drive.
Come on, it'll be just like in the movies. We'll pretend to be someone else.
It's all an illusion.
You want to know who you are, don't you?
Tristan, on vient d'écouter un petit extrait de la bande-annonce en version originale. Ça fait très, pour ceux qui l'ont pas vu comme moi, thriller psychologique, cette histoire.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que... En fait, je pense que le film se divise en deux parties. En fait, la première partie, elle diffuse un mystère comme une enquête. Et en fait, la deuxième partie ne répond pas vraiment aux attentes de cette enquête. Et la deuxième partie est vraiment beaucoup plus onirique, dans le sens où on ne peut plus vraiment faire appel à la rationalité pour comprendre ce qui se passe. Donc selon les spectateurs, je sais qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup plus la première partie que la deuxième, ou l'inverse, la deuxième partie que la première.
Et toi alors ?
Moi, je préfère beaucoup plus la deuxième partie, parce que... Il y a quelque chose de vraiment que j'avais jamais vu ailleurs dans la deuxième partie de ce film et qui est assez impressionnant parce qu'on est justement dans l'onirisme et on comprend pas vraiment ce qui se passe. Je vais éviter de spoiler, mais il y a une sorte d'inversion des rôles dans la deuxième partie du film qui fait qu'on peut plus suivre l'intrigue d'un point de vue rationnel, ça ne fait plus sens.
Du coup, on devient presque comme cette femme qui a perdu la mémoire et qui a perdu tous ses repères. Enfin, il y a les questions existentielles. Est-ce que, enfin, là qu'on a entendu par exemple dans l'extrait, est-ce que tu sais qui tu es ? Je ne sais pas qui je suis. Pour toi, il y a des questions philosophiques qui sont relevées dans ce film ? Parce que moi, je ne l'ai pas vu, mais je me demande parce que j'ai l'impression que ce qui te plaît globalement là dans ton portrait via tes goûts, il y a quand même un peu de philo dans tout ça.
Alors moi perso, je le vois pas du tout comme un film philosophique, dans le sens où ça apporte pas de réponse à des questions existentielles. À la limite, ça pourrait.
Mais est-ce que la philo apporte tout le temps des réponses ou elle pose souvent des questions, la philo?
Oui, c'est vrai, mais je sais pas si justement la philosophie pour moi c'est construit beaucoup sur la rationalité, alors que là c'est quelque chose qui est construit sur le sentiment pur, sur la sensation. Et sur la destruction presque de la rationalité, parce qu'on déconstruit tout en fait. Donc, en un sens, c'est presque anti-philosophique.
Après, c'est vrai que les questions existentielles qui n'apportent pas de réponse et qui dépassent la rationalité de l'homme sont le terrain de jeu des philosophes. Même si je comprends qu'ils rationalisent tout ça, voilà, ils essayent. Mais en tout cas, ça nous fait nous poser des questions.
C'est sûr que la thématique de la perte d'identité va totalement dans ce sens-là aussi. Je pense que ça soulève des enjeux de ce point de vue-là.
Hey, listen. You're too crazy, nigga. You better stop, man. You better stop. Let me tell you something.
C'est le moment de la bribe de phrase, qui est la dernière étape de l'émission. C'est en fait un petit morceau comme ça, d'une phrase. Donc là, pour le coup, on revient dans les mots de quelque chose qui t'a marqué, qui t'a interloqué, surpris, fait rire, enfin voilà. Quelque chose qui est sorti de l'ordinaire dans le quotidien des mots qui t'entourent. Tristan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que tu as écouté cette phrase avant de nous la révéler ?
J'ai entendu récemment à la télé Gérald Darmanin utiliser le concept d'éco-terrorisme pour parler des événements qu'il y avait eu très récemment autour de la bassine de Sainte-Saline. En fait, il y a eu des affrontements entre les CRS et des manifestants qui étaient contre la construction de cette bassine parce que... Donc je crois que le problème se trouve autour du fait qu'on veut récupérer une grande quantité d'eau à destination des agriculteurs et que forcément la récupération de cette eau crée des problèmes vis-à-vis de son partage en fait. Donc il y a eu des manifestations et qui ont été un peu violentes.
Et Gérard Darmanin dit ce mot d'éco-terrorisme.
Oui, pour qualifier les manifestants qui ont blessé des policiers. Donc voilà, au-delà du fait que je voulais pas forcément prendre parti ou prendre position. Mais pour moi, ce terme d'éco-terrorisme, il s'inclut dans une tendance un peu globale qu'il y a aujourd'hui, notamment dans les médias, qui est de simplifier les choses, de les radicaliser, les rendre assez extrêmes. Et le concept d'éco-terrorisme me semble aller pleinement dans cette direction, ce que je trouve problématique. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à Milan Kundera et son essai L'art du roman. Parce qu'il évoque justement le fait qu'aujourd'hui on est dans une époque contraire à l'esprit du roman, dans le sens où l'esprit du roman cherche à montrer la complexité des choses et la nuance dans ce qui se passe. Alors que les masses médias ont tendance à tout simplifier autour d'idées phares, violentes, choquantes. Et je trouve que c'est très dangereux ce jeu parce qu'effectivement quand on a tendance à simplifier... Ça crée une sorte de différence entre les personnes, ça crée des camps, on fait des étiquettes, lui il est étranger par rapport à moi, il est capable de violence et de terrorisme, c'est pas... Effectivement il y a des violences, elles sont condamnables.
Il y a les pros et les anti quelque chose quoi.
Exactement.
Merci beaucoup Tristan d'avoir été la voix enchantée du jour.
Merci à toi.
Et on se retrouve le mois prochain à 18h30 sur Radio Campus Paris.